Carnet de santé, Muriel Salmona. 6 podcasts hors série présentés par Marina Carrère d'Encausse.
J'ai eu une psychothérapie quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté, j'ai repris. Et jamais, jamais on a identifié le stress post-traumatique que je vivais. Et même c'était des très grands médecins, mais pas formés.
Épisode 4, prise en charge médicale et psychologique.
Les violences sexuelles et les viols chez les plus jeunes en particulier ont de graves conséquences. Leur prise en charge physique et psychologique immédiate est évidemment le mieux, mais dans de nombreux cas, une mémoire traumatique et une amnésie s'installent qui peuvent durer des dizaines d'années durant lesquelles la victime souffre et se met en danger sans en comprendre la raison. Le retour des souvenirs spontanément ou lors d'une thérapie est évidemment extrêmement difficile à vivre, même si comprendre pourquoi on a tant souffert peut apporter de l'apaisement. En tout cas, les violences sexuelles, la mémoire et l'amnésie traumatique qui les accompagnent doivent être prises en charge de manière compétente. Par qui ? Comment ? Des thérapies comme l'EMDR ou l'hypnose peuvent-elles être utiles ? Peut-on créer de faux souvenirs ? On en parle aujourd'hui avec le docteur Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. On parle donc prise en charge médicale et psychologique des victimes de violences sexuelles. On le sait, l'idéal c'est de pouvoir prendre en charge une victime très vite après l'agression, dans les heures qui suivent. C'est vraiment une urgence médico-psychologique ?
Oui, alors ça faut le rappeler, c'est pas suffisamment rappelé, c'est une urgence médico-psychologique et médico-légale. C'est dans les 72 heures normalement. Alors, pour la mémoire traumatique, c'est même les 12 heures. C'est-à-dire si on veut vraiment éviter qu'une mémoire traumatique s'installe, sortir la personne de la dissociation et éviter qu'une mémoire traumatique s'installe dans la durée, il faudrait prendre les victimes en charge spécialisée dans les 12 heures. Bon. Là, les dernières grandes études qui ont été faites par les grandes enquêtes VRS là, du gouvernement, c'est seulement 6% des victimes de violences sexuelles qui sont vues en urgence. 6%, alors que c'est une urgence médico-psychologique. Parce que d'abord, il y a une urgence médicale. Quand, pour le viol, c'est évident. Il faut traiter les IST.
Les
infections sexuellement transmissibles, traiter aussi toutes les blessures, les coups et blessures, bien entendu, le stress extrême, mais aussi éviter une grossesse. Enfin, c'est vraiment essentiel. Et puis traiter le trauma. Ça se traite immédiatement, déchoquer la personne, en fait. Mais le plus souvent, la personne, elle reste choquée dans son coin et elle n'est pas prise en charge avec des conséquences sur la santé très graves à long terme.
Alors, vous l'avez dit, effectivement, en cas de mémoire traumatique, de dissociation, d'amnésie traumatique, les souvenirs reviennent souvent des années après. Qui consulter à ce moment-là et quelle va être la prise en charge ?
Alors, le plus souvent, les souvenirs viennent en dehors de prise en charge, puisque, malheureusement, c'est moins de 30% des victimes qui vont réussir à avoir une prise en charge, le plus souvent, quasiment entre 10 et 13 ans après les événements. Une prise en charge qui prend en compte le trauma, un peu, plus ou moins, pas forcément très spécialisé. Bon. Donc la plupart des victimes, elles n'ont pas de prise en charge. Donc leurs souvenirs vont revenir quand elles vont être, en revanche, protégées par des événements de la vie qui font qu'elles vont aller mieux, elles vont sortir de leur dissociation et elles vont avoir cette mémoire traumatique explosive. Vu les chiffres, on en parlera de violences sexuelles en France et le nombre de victimes chaque année.
Est-ce qu'on peut
200 000 femmes qui sont victimes de violences sexuelles, 217 000 femmes qui sont victimes de violences sexuelles chaque année, 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année, au minimum. Donc on peut imaginer le nombre. Donc c'est un problème de santé publique majeur et il faudrait que les personnes soient informées de ce qui se passe, qu'elles puissent repérer. Vous savez, par exemple, pour tout ce qui est cardiovasculaire, on explique aux gens quand même que s'ils ont un sentiment d'oppression quand ils font un effort, faut vraiment s'en préoccuper. Que s'ils commencent à avoir des troubles sensitifs de la main, faut peut-être se demander si c'est pas un AVC. Enfin, on a comme ça de la prévention. On a très peu de prévention sur le psychotrauma. Or, vraiment, c'est un problème de santé publique majeur à des conséquences à long terme gravissimes, à la fois sur la santé mentale et sur la santé physique, avec des risques de dépression à répétition, de suicide, de troubles anxieux graves, de conduite addictive, on en a parlé.
Mais aussi de diabète, de maladies cardiovasculaires.
Voilà. De troubles immunitaires, très importants, de troubles digestifs aussi. Presque toutes les spécialités sont prises en compte, parce que c'est une maladie du stress, en quelque sorte, avec plein de conséquences là-dessus, plus les conséquences liées aux conduites dissociantes, violentes, des mises en danger, etc., avec l'alcool et la drogue. Donc tout ça, on le sait, mais on ne donne pas d'informations très spécifiques. La première fois qu'on a fait une grande enquête auprès de victimes, la première chose qu'elles nous ont dit, on veut des informations. On veut, c'est comme ça qu'on a fait notre première plaquette, qu'on après on en a fait plein, dont maintenant pour les enfants, avec celle qui est illustrée par Claude Ponty et qui a beaucoup de succès là, auprès des professionnels. Les gens ont besoin de comprendre et de savoir. Sinon, c'est incompréhensible. Le trauma, c'est pas compréhensible.
Mais les soignants sont assez bien formés pour pouvoir.
Non, c'est ça le problème.
On va pas forcément voir un psychiatre spécialiste de la mémoire traumatique. Je veux dire, c'est quand
même tout le problème. Non. Et non, alors du coup, bon, avec moi, j'ai fait partie de la CIVIS, la commission indépendante inceste et violences sexuelles sur les enfants. On le préconise, qui est un dépistage systématique et qui est une formation systématique de tous les professionnels de santé. Tous les psychologues. Mais ce n'est pas le cas encore. On n'a pas de formation systématique. On n'a toujours pas obtenu, alors que c'est un problème de santé qui est reconnu au niveau mondial comme un problème de santé majeur, et que le psychotrauma et le traitement est efficace. C'est-à-dire qu'on peut éviter des pertes de chance énormes. Et ça peut aller jusqu'à 20 ans d'espérance de vie en moins. Donc on peut éviter tout ça.
Et à partir du moment où on prend en charge, parce que la victime est consciente et donc a besoin de consulter et qu'on trouve un soignant formé pour cela, on peut aussi enrayer toutes ces conséquences qui existent.
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux,
bien sûr,
c'est la prise en charge dans les 12 heures, ou au moins dans les 72 heures. Une prise en charge spécialisée en urgence 24 heures sur 24. En plus, ça a une grosse importance aussi au niveau médico-légal, ça on en parlera pour la suite des événements. Après, à tout moment, on peut mettre en place une prise en charge de psychotrauma. Et c'est efficace. Le problème, c'est que si on met en place cette prise en charge, comme ça m'arrive, moi, 50 ans après, 60 ans après, je prends en charge des patients qui ont 80 ans, c'est efficace. Mais il y a toutes les années qu'ils ont passées.
Ils sont perdus.
Je veux dire que c'est... Voilà. Bon, alors, au moins, on leur offre quelque chose. D'un seul coup, ils sont libérés. Ils ont l'impression d'être normal. Enfin, ce qu'on leur dit dès le départ, c'est que c'est les conséquences normales de violence que vous avez subie. Voilà, tout ça, c'est normal, c'est universel. C'est pas vous le problème. C'est le stress que vous avez subi, le trauma que vous avez subi, et puis aussi la méconnaissance de tout le monde de ces psychotraumas qui a fait que personne n'est venu vous secourir.
On va écouter le témoignage de Delphine, qui a été violée enfant, victime d'amnésie traumatique. Elle témoigne sur France TV Info. Les souvenirs sont revenus. Elle a eu une prise en charge. Écoutez ce que cela a changé.
Avant, j'étais en mode survie. Je luttais constamment par rapport à ces souffrances que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le mode combat, mais combat pour apprendre à vivre, mais adoucir aussi ces souffrances.
C'est une nouvelle vie qui commence, et parfois ces femmes-là, du coup, se prennent en charge, font vérifier leur santé.
Oui.
Voilà, elles ont accès à tout ça.
Oui, elles ont accès à tout ça. Ça les réaligne avec leur vie, avec ce qu'elles sont. Parce qu'il faut voir aussi qu'on récupère son mental, mais on récupère aussi son corps, parce que l'impact traumatique sur le cerveau fait qu'il y a des atteintes neurologiques très importantes au niveau du cerveau, des atteintes au niveau du cortex. Toutes les zones qui ont été impactées par les violences sont très diminuées par rapport au reste, hein, avec plus de 20% de diminution. Il y a des atteintes dendritiques, de connexion, mais ça se répare. Le cerveau a une capacité, une neuroplasticité, une neurogénèse très importante. Donc, tous ces éléments vont se réparer. Et les troubles cognitifs aussi très importants, qu'on subisse les victimes, on n'en a pas parlé, vont aussi... parce que déjà, elles doivent survivre. Ça leur prend à peu près tout l'espace mental, plus toute la dissociation avec toutes les difficultés de mémoire, etc. Le plus souvent, c'est un parcours extrêmement difficile pour faire la moindre chose. Et d'un seul coup, elles peuvent reprendre des études. C'est-à-dire que j'ai des jeunes qui avaient été diagnostiqués schizophrènes, avec des conduites addictives terribles et tout ça. On pensait même qu'ils avaient une déficience intellectuelle, qui font des études supérieures et faire sa vie, quoi.
Est-ce que justement, pour que cette prise en charge soit le plus efficiente possible, possible? Est-ce qu'il faut faire, durant cette thérapie, est-ce qu'il faut faire revenir la totalité des souvenirs? Est-ce que c'est important?
Pas forcément, parce que parfois on n'arrivera pas à retrouver tout où ça peut prendre, parce que vous savez, en plus les victimes, le plus souvent, elles ont subi violence sur violence sur violence. Quand, si vous imaginez que vous avez subi des violences incestueuses pendant 10 ans, on va pas retrouver la totalité, on va pas faire ce travail-là harassant, mais il faut qu'on retrouve une sorte de vérité suffisante sur ce qui s'est passé. Et surtout, on travaille à partir des symptômes. C'est-à-dire, chaque symptôme, on va rechercher sa cause et on va faire un lien. On travaille. En fait, on va pas imposer à la victime d'aller mettre le nez là où ça fait mal. C'est les symptômes qui vont guider notre travail de décryptage de la mémoire traumatique. Et petit à petit, plus on décrypte, en fait, ce qui est l'enjeu de la prise en charge, c'est de lutter contre la sidération de départ. Cette sidération qui a fait qu'il n'y a eu aucune intégration de l'événement. On va faire en sorte que l'événement s'intègre dans sa réalité, dans sa vérité. Parce que l'agresseur, il est souvent dans un scénario totalement mystificateur. Il raconte n'importe quoi, il ment éhontément, il détourne tout, il retourne tout. Et tout ça, il faut le remettre en place, séparer ce qui vient de l'agresseur de ce qui vient de la victime, parce que sinon ça bug, ça ne peut pas s'intégrer. Mmh. Et donc, travailler tout ce décryptage petit à petit pour qu'on réintègre son histoire.
Se remette en gros dans le cerveau à l'endroit normal.
À l'endroit normal, c'est quelque chose qui a fait basculer votre vie, ça restera. C'est-à-dire victime. Alors, effectivement, on va faire en sorte que les personnes ne soient plus victimes de nouvelles violences, mais elles ont été victimes, elles resteront victimes d'actes cruels, dégradants.
Et les souvenirs sont toujours là.
Donc ça sera toujours, c'est quelque chose qui a été horrible, dramatique, mais elles ne vont pas le revivre à l'identique, ça change tout. C'est-à-dire qu'elles peuvent dégager des espaces où elles peuvent être en sécurité, elles peuvent avancer, elles peuvent faire des projets, elles peuvent s'aligner, elles peuvent avoir une estime de soi qui revient, elles peuvent se penser qu'elles ont le droit d'exister, de vivre et d'avancer. Et effectivement, on va traiter toutes les conséquences psychotraumatiques. Une fois que la mémoire traumatique est intégrée, il n'y a plus besoin de stratégie de survie par rapport à cette mémoire traumatique. Donc, il n'y a plus besoin de conduite addictive, de conduite à risque, de mise en danger, ou de conduite d'évitement, qu'on privilégie dans un premier temps, mais on n'a plus besoin. Et donc, du coup, petit à petit, elles vont réinvestir tout un espace qui va être le leur. Elles ont été détournées de leur vie, elles vont réintégrer leur vie. Et elles ne vont plus avoir ce sentiment de vide intérieur qui est très présent chez les victimes avec la dissociation, où là, tout va prendre sens. Donc, c'est un travail qui est de longue haleine, hein, mais qui se fait petit à petit. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que nous, on initie ce travail, mais après, les victimes, elles vont le faire elles-mêmes. C'est-à-dire, petit à petit, les patients, ils vont faire ce travail-là de décryptage parce qu'ils auront les outils faire. Voilà.
Dans cette prise en charge, il y a deux techniques dont on parle. L'hypnose d'une part, le MDR d'autre part. Le MDR, je rappelle que c'est une technique qui permet soit en stimulant successivement l'œil droit, l'œil gauche, soit en tapotant pour stimuler le genou droit, genou gauche, en tout cas pour stimuler les deux parties du cerveau, l'hémisphère droit et gauche, de faire ressortir des souvenirs. Hypnose, EMDR, est-ce que ça a une place dans ces thérapies?
Alors, les thérapies qui sont recommandées un peu internationalement, c'est des thérapies théoriquement dites intégratives qui vont être centrées sur le trauma. C'est-à-dire qu'il faut que la thérapie soit centrée sur le trauma, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a existé. Il faut rechercher la vérité, il faut remettre le monde à l'endroit, rendre justice à la victime, c'est très important. Et parfois, les thérapies sont juste des thérapies symptomatiques pour diminuer les symptômes. Alors, les thérapies comme l'hypnose ou le MDR peuvent être très efficaces pour diminuer les symptômes, mais elles ne sont pas forcément, à ce moment-là, utiles parce que, juste, elles dissocient. Vous savez, les enfants qui ont subi de très très graves violences dans la petite enfance, ils se balancent, vous savez. Ils font en fait de l'EMDR sans le savoir. C'est des stratégies pour diminuer les symptômes. L'EMDR, c'est bien s'il est accompagné de tout un travail de décryptage, de remise à l'endroit.
Seul, ça peut être dangereux, quoi, en gros.
Oui. Et ça peut même créer une situation où c'est un peu comme les antidépresseurs s'ils sont utilisés seuls. Parce qu'on utilise les antidépresseurs, les anxiolytiques, voire des régulateurs de l'humeur.
Dans les thérapies.
C'est la prise en charge. On peut en avoir besoin à certains moments, mais s'ils sont seuls, je veux dire, ils dissocient les personnes. ça anesthésie. Et du coup, ça rend dangereux et surtout, ça ne traite pas le trauma. Il faut traiter le trauma. Après, il faut traiter le stress. Donc, on utilise aussi les bêta-bloquants pour diminuer les sensations de stress. Il faut traiter toutes les conséquences médicales, bien entendu. Il faut faire, dans un premier temps, protéger la victime. Ce qui est vraiment essentiel, c'est pour pouvoir avancer
dans la thérapie en ayant moins de stress. C'est ça, en gros, toutes ces idées. Le problème de certaines de ces techniques, notamment l'hypnose, mais pas que, on a accusé certains hommes ou femmes d'avoir été manipulés et que, en gros, certains thérapeutes aient induit des faux souvenirs. C'est vrai, parce que c'est un outil qui peut se retourner en plus contre les victimes, c'est terrible.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble, je le dis et je le redis, par rapport à ce qui est de l'amnésie traumatique et de la mémoire émotionnelle qui revient, dans l'immense majorité des cas, c'est en dehors de toute thérapie. C'est-à-dire les victimes, elles sont seules. Voilà, et ça revient, et il n'y a pas personne ne les a manipulées ni quoi que ce soit. Les techniques spécialisées ne sont pas des techniques qui sont inductives. Enfin, on ne suggère pas les choses. On part de faits concrets, on part de symptômes pour aller retrouver des éléments. On part de choses que les personnes ont dans la tête et tout ça. On ne crée pas de situation, hein, bien entendu. Alors après, qui est dans certains, à la marge, mais vraiment à la marge, certaines sectes, etc., qui utilisent, qui peuvent... Souvent dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'il y a des violences sexuelles dans ces thérapies. Parce que, en fait... Ça peut être une bonne technique de faire croire à la personne que tous ces symptômes viennent de violences sexuelles qu'on a soi-même commises sur la personne. Ça embrouille la personne.
Donc c'est à la marge,
et ce sont souvent des gens dangereux. Mais c'est très à la marge. Enfin, et par rapport à tout ce qui a été aux États-Unis sur la théorie des faux souvenirs, etc. On sait que ça a été totalement gonflé, que c'était pas vrai, que la plupart des choses n'étaient pas vraies, et que l'amnésie traumatique dissociative, elle existe bien, quoi, et qu'on va pas abandonner l'immense majorité des victimes parce que de temps en temps il y a des gens qui vont utiliser cette stratégie là, et cela faut les dépister.
C'est important de le rappeler, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés à trouver des médecins compétents, il y a aussi des difficultés financières pour les victimes qui sont malheureusement souvent en situation de précarité de par leur souffrance, mais on le sait peu, mais il y a une prise en charge à 100% pour ces victimes, pour leur thérapie?
Oui. Alors, pour tout ce qui est victime de violences sexuelles dans l'enfance, il y a un article de loi du Code de la Sécurité sociale qui fait qu'on peut avoir une prise en charge à 100%. Tous mes patients sont pris en charge à 100%. Mais cette prise en charge-là, elle peut être faite que dans le cadre médical, donc psychiatrique. Enfin, moi, je fais des psychothérapies spécialisées dans le cadre de ma prise en charge médicale psychiatrique. Mais le problème, c'est les psychologues. On est quand même peu de psychiatres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge, elle doit être holistique, elle doit être pluridisciplinaire. On peut pas prendre en charge une victime sans qu'il y ait les prises en charge aussi médicales, somatiques, les prises en charge aussi en termes de diminution du stress par tout ce qui est technique de relaxation. Enfin, tout ça peut être utile. Mais la prise en charge psychologique devrait être prise en charge à 100%. Ça, c'est ce qu'on a demandé avec la CIVIS, ça fait partie des préconisations. Enfin, moi, je pense que la prise en charge, elle peut pas être limitée parce qu'elle est tellement dépendante de ce que les gens ont vécu. C'est-à-dire que souvent, nous, on prend en charge une patiente, elle vient pour un fait donné, des violences qu'elle a subies. Et puis, petit à petit, elle nous parle d'autres violences et de plus en plus de violences qui remontent de plus en plus loin, qui du coup peuvent s'exprimer parce que d'une certaine manière elle se sent sécurisée par le travail qu'on a déjà fait, et du coup on se retrouve avec un truc énorme à faire parce que je rappelle il y a un continuum de violences pour les femmes très important qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, et ça prend du temps et on peut pas dire il faut 10 séances, il faut 20 séances, enfin ça on peut pas gérer les choses comme ça, et qu'il faut voir que ce serait que sur le plan humain on ne peut pas laisser les gens sans prise en charge. Et sur un plan malheureusement strictement financier, ne pas prendre en charge les psychotraumas, c'est devoir prendre en charge des conséquences psychotraumatiques à long terme et gravissimes.
Et qui coûtent très très cher aussi.
C'est le premier facteur de risque de cardiovasculaire, quand même, d'avoir subi des violences sexuelles.
Voilà, donc clairement, il faut effectivement former un maximum de soignants. Si la victime porte plainte, est-ce qu'il faut aussi former les policiers, les magistrats, les avocats, pour que ce qui doit être une reconnaissance et qui apporte l'apaisement ne se transforme pas en une nouvelle violence? Mais comment former les personnes à cette écoute? Est-ce que c'est important de porter plainte? Que faire du délai de prescription en cas de longue amnésie traumatique? Et pourquoi y a-t-il si peu de condamnations? On en parle dans le prochain épisode.
Carnet de santé, un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.